Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les stations-services sont de nouveau opérationnelles dans la ville de Lubumbashi, 3 jours après la fermeture. Les pétroliers ont trouvé un terrain d'attente après avoir présenté leurs revendications au vice-premier ministre de l'économie et au ministre des hydrocarbures. La rencontre a eu lieu samedi à Lubumbashi. Les difficultés que connaissent les déplacés du conflit intercommunautaire Mbole-Lingola dans la province de la Tchopo ont été au centre d'une réunion entre le ministre provincial de la Santé et les partenaires humanitaires basés à Kisangani. Suite au manque de nourriture, certains enfants atteints de la malnutrition commencent à décéder dans les sites. L'invité de ce journal est le responsable, la responsable des relations extérieures du Haut Commissariat pour les réfugiés à Bounia. Aïdara Faouzia parle de la situation difficile des déplacés en Ituri avec l'aide humanitaire qui se fait rare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après 3 jours de fermeture, les stations-service sont de nouveau opérationnelles dans la ville de Lubumbashi. Une réouverture facilitée par le fait que les pétroliers du Haut-Katanga ont pris langue avec le vice-premier ministre et ministre de l'économie qui était accompagné du ministre des hydrocarbures dans un séjour à Lubumbashi depuis hier samedi. Les pétroliers ont à cette occasion présenté leurs principales revendications, dont le paiement du manque à gagner par le gouvernement, la crainte de la rupture des stocks et la révision à la hausse de la structure des prix, car les prix du baril de pétrole a augmenté sur le marché international. Les deux parties ont trouvé un terrain d'attente, comme nous le relate ici Jean Gandou dans ce reportage.
Au sujet du paiement du manque à gagner que les pétroliers réclament au gouvernement après leur réunion avec le vice-premier ministre et ministre de l'économie dans les assurances suivantes.
Nous allons payer le manque à gagner mercredi.
Et par rapport au prix du baril de pétrole qui a augmenté sur le marché international, Vital Kamerhe apaise les pétroliers.
Il y a deux solutions. La première, c'est que l'argent tombe et qu'on va supporter la totalité de 30%. La deuxième solution, c'est de dire nous allons publier une nouvelle structure de prix des produits pétroliers. En tenant compte du fait que nous devons nous rapprocher petit à petit des prix d'équilibre pour que cette histoire de perte et manque à gagner se termine définitivement.
Cette approche du gouvernement est appréciée par le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo dans les Haut-Katanga, Patrick Mouland.
La profession pétrolière s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une oreille attentive et probablement des solutions. Voilà comment vous avez constaté que la situation s'est reprise anticipativement par le simple fait que le vice-premier ministre a confirmé son arrivée à Lubumbashi. Donc cela a été une réaction que nous saluons et que nous remercions du gouvernement par cette spontanéité-là.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Congo central, les chauffeurs routiers ont suspendu leur grève déclenchée le 18 septembre dernier pour 4 jours pourtant. Ces chauffeurs poids lourds disent avoir été rassurés que le gouvernement va examiner leurs revendications. Cet accord a été trouvé et annoncé à l'issue d'une rencontre qui a mis autour d'une table hier samedi à Matadi le secrétaire général au transport, les délégués du ministère de l'économie, la délégation syndicale des routiers, le maire de Matadi ainsi que les grévistes. Pour le maire de Matadi, la levée de cette grève permettra d'approvisionner la ville de Kinshasa en produits alimentaires devenus rares et chers à la suite de cette grève. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
La suspension de ces mouvements de grève n'est que temporaire, rappellent les grévistes. Ils précisent que la levée de la grève ou sa poursuite sera décidée dans 4 jours. En attendant les résultats de l'examen de leurs revendications à Kinshasa par le gouvernement, les bancs syndicales des transporteurs et les bancs patronales. Pour les secrétaires généraux au transport et les délégués du ministère de l'économie venus de Kinshasa pour persuader les routiers à reprendre le travail, l'examen des revendications de ces derniers devient un impératif. Car cette grève de 10 jours a démontré que le travail des routiers est indispensable pour plusieurs secteurs de la vie du pays. Le maire de Matadi, impliqué depuis le début dans la recherche d'une réponse à cette grève, affirme que la suspension de cette grève constitue un soulagement notamment pour la population kinoise. Dominique Nkodiambete.
La grève des chauffeurs poids lourds a pris fin. C'était ça notre souci majeur. Vous avez vu, la grève a duré plus de 10 jours et déjà la rareté vient commencer à se faire sentir à Kinshasa et les prix de certains biens de première nécessité commencent à augmenter. Donc merci beaucoup à la délégation du ministère national de l'économie, au secrétaire général national, au transport, au syndicat.
Rappelons que les chauffeurs poids lourds réclament notamment l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles.
Parmi leurs 11 revendications,
deux qui concernent la province du Congo central ont déjà trouvé solution. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Et puis, le prix de la course en taxi-bus est doublé brusquement sur quelques axes de la ville de Bukavu au sud Kivu. Le président de l'association des chauffeurs du Congo au sud Kivu met en garde les conducteurs qui haussent les prix d'une manière unilatérale. Le maire de la ville, quant à lui, prévient les chauffeurs qui profitent de l'opération de contrôle des documents pour fixer les prix à leur gré. Des détails avec Jean Kassami.
La course en taxi-bus sur l'axe Ngouba Essence a galopé brusquement de 500 à 1000 francs congolais. Les usagers ont été surpris, mais les chauffeurs sont restés catégoriques. Le président de l'association des chauffeurs du Congo, branche du Sud Kivu, rappelle à l'ordre tous les chauffeurs de sa corporation qui réajustent les prix au mépris des normes qui régissent les transports en commun. De son côté, le maire annonce la tenue d'une rencontre avec les associations de transports urbains pour faire la lumière sur la question. Zeno Karumba demande aux chauffeurs de taxi-bus de ne pas spéculer sur les prix à cause de l'opération de contrôle des documents de bord que le gouvernement provincial vient d'instaurer. Les chauffeurs de taxi, eux, n'ont pas changé les tarifs. Toutefois, la plupart d'entre eux aussi ne respectent plus les itinéraires habituels. L'axe place de l'indépendance jusqu'à la frontière est scindé en deux, ce qui fait que les clients se voient obligés de payer une double course au lieu d'une seule. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les déplacés du conflit Mbole, Lengola, se trouvant dans trois sites, à savoir Konga Konga, de la paroisse Sainte-Marthe et du camp Lukusa, connaissent des moments difficiles de leur vie. Suite au manque de nourriture, certains enfants atteints de malnutrition commencent à décéder. Cette situation a fait l'objet d'une réunion hier à Kisangani entre le ministre provincial de la Santé et les partenaires aussi bien du secteur que des organisations humanitaires. Objectif, essayer d'y trouver des solutions urgentes. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Les déplacés du conflit Mbodé-Lengola vivent dans une situation inconfortable. Dans leur site, ils ne mangent presque plus. Cette carence de nourriture engendre des conséquences néfastes dans ces milieux, comme l'explique le chargé de communication du système de gestion des incidents à la Tchopo, Léon Trésor Osono.
Aujourd'hui, ces personnes déplacées internes vont dans la rue, au niveau de maison, pour quémander ce qui n'est pas bon. Il y a des enfants qui sont décédés des suites de la malnutrition. Il y a aussi changement de comportement. Vous savez, une femme qui n'est pas nourrie, une femme qui n'est pas prise en charge, il peut y avoir de prostitution au niveau du site.
C'est pour cela que la ministre provinciale des Affaires humanitaires sollicite l'appui des partenaires techniques et financiers du gouvernement. En réaction, au nom de ses collègues, le chef du sous-bureau de l'UNICEF Kisangani précise que les interventions se font de façon coordonnée. Mokhtar Khan.
L'OMS, par exemple, a mis en place les tentes et la distribution des médicaments. Et les autres organisations sont également en train de se positionner au fur et à mesure. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont touchés par la malnutrition. Je pense qu'on va essayer de discuter avec les autres partenaires, voir qu'est-ce qui pourrait être fait dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui n'est pas dans le mandat de l'UNICEF.
Qu'à cela ne tienne, Mokhtar Khan précise que pour les déplacés, l'évaluation a été faite, un plan de réponse existe déjà et les agences sont en train de se positionner. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, au moins 10 otages, 10 ex-otages congolais des rebelles des ADF ont été réunifiés jeudi et vendredi dernier avec leurs familles dans le territoire de Beni. Certains se sont échappés de ces rebelles, d'autres ont été libérés il y a un mois par les forces d'opération conjointes FARDC-UPDF. Une réinsertion familiale qui a été facilitée par la fondation américaine Bridgeway à travers sa structure d'accompagnement Ukweli Defection Committee UDC. Tout en saluant cet événement, le président de la coordination urbaine de la société civile de Beni, qui assure le secrétariat de cette structure, invite la population à vivre en parfaite harmonie avec ses ex-otages. Maître Pépin Kavota a été joint par André Kitenge.
Leur réinsertion familiale a été facilitée par Bridgeway, qui accompagne Ukweli Defection Committee, UDC, la sigle, le vendredi le 29. C'était maintenant une phase cruciale où on a amené certaines personnes dans leur famille. Cette réunification a été faite à Maboya, à Mabuku. Et il faut voir la joie que les familiers de ces ex-otages avaient sur leur visage. Ces jeunes compatriotes qui ont rejoint finalement, après une longue période de captivité, leur famille biologique, ont été bien accueillis par ces familiers et même la population de leur village. Ces citoyens congolais ont été pris par la force, par ces ennemis de la paix, et nous sommes tous obligés de vivre avec ces ex-otages. Et ici, c'est encore l'occasion pour la société civile de demander à toute personne qui collaborerait avec ces ennemis de la paix de vite quitter pour contribuer à l'avènement de la paix dans notre région.
Dans la province de l'Omami, lancement vendredi dernier de la campagne agricole saison A, couplée à la distribution de semences de base aux structures des agriculteurs multiplicateurs. La cérémonie de lancement de la campagne s'est déroulée à Kamende, chef-lieu du territoire de Cabinda. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette cérémonie de lancement de la campagne agricole marque le début de la saison culturelle A dans la province de l'Omami. Dans son allocution, l'autorité provinciale a invité toute la population du territoire de Cabinda et de l'ensemble de la province de l'Omami d'investir dans l'agriculture afin de contribuer au développement. Nathan Ilunganumbi a expliqué que l'une des priorités du gouvernement provincial est de relancer les filières agricoles en vue d'améliorer la productivité des exploitations agricoles. Le gouverneur de province a également loué les efforts du gouvernement provincial qui a rendu disponibles les moyens nécessaires pour l'achat des intrants et matériel aratoire à distribuer aux agriculteurs multiplicateurs afin d'augmenter la production agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire. Signalons que la province de l'Omami est un grenier agricole, mais depuis plus de 5 ans, elle enregistre des cas de malnutrition sévère chez les enfants ainsi que les femmes enceintes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, un montant de 6 300 $ a été déboursé par une ONG pour assurer la réinsertion socio-professionnelle des sa mère célibataire. Par ce geste qui intervient après une formation des bénéficiaires, l'ONG Maniema United, dirigée par Jafari Kilongo Juvenal, veut encourager l'entreprise en charge de ces femmes. Tout en saluant leur bienfaiteur pour son geste, ces femmes appellent d'autres organisations et personnes de bonne volonté à suivre ce bel exemple pour les encourager à développer leurs activités. Les détails avec Florence Kizalunga.
Cette route qui constitue la seule voie d'approvisionnement de la population se trouve dans un état déplorable. Sa réhabilitation s'est avérée nécessaire dans le cadre de négociations et réalisation du cahier des charges signé vendredi entre la société Namoya Mining et la communauté locale à Salamabila. Henri Bongeli est le directeur.
Nous avons donc une route qui est importante aussi bien pour la communauté que pour nous et nous avons décidé, en accord avec la communauté, de mettre ça dans le cadre du cahier des charges et de réhabiliter cette route qui est longue de plus ou moins 400 km, afin que, dans les standards, cette route puisse supporter le passage de véhicules jusqu'à une charge maximale autorisée de 50 tonnes.
L'ingénieur Gaspard Mundjuyungu, qui exécute ces travaux, nous explique de quoi il sera question.
Il s'agira de permettre à ce que les usagers puissent rouler avec confort. Nous allons remettre la chaussée en état, nous allons corriger et rétablir les bassins versants, ainsi que les drainages, pour que la route puisse répondre aux normes. Donc toute la technique qu'il faut sera mise en œuvre pour la route, afin que les usagers y trouvent le confort nécessaire.
Signalons que la route provinciale R521 relie Salamabila à Lulimba, alors que la route nationale 5 relie Lulimba à Bukavu. Des retours de Salamabila, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Goma, les acteurs impliqués dans le secteur touristique au Nord Kivu demandent aux autorités congolaises d'envisager déjà un allègement d'octroi de visas d'entrée en RDC à partir des postes frontaliers pour la promotion du tourisme au moment venu. Déclaration faite à l'occasion de la célébration le mercredi 27 septembre 2023 de la Journée internationale du tourisme. Selon ces acteurs, c'est pour faire face à la concurrence à l'Afrique de l'Est dans le secteur du tourisme. Touver Wundi, l'un des acteurs impliqués dans le secteur touristique au Nord Kivu, les dit au micro de Denis Lukeso.
Parmi les choses que nous attendons, peut-être pour les prochains jours, une fois la sécurité garantie, qu'on allège l'accès au visa d'entrée en République démocratique du Congo à travers la frontière. Beaucoup de touristes manquaient l'opportunité d'avoir des visas frontaliers. Si la RDC veut faire face à la concurrence de l'Afrique de l'Est ou offrir également mieux de l'Afrique de l'Est, c'est l'allègement d'obtention des visas au niveau international. Mais il se pose aussi un grand problème sur le plan humanitaire. Il y a un moratoire qui a été entrepris par le gouvernement central, c'est lui de ne pas permettre aux humanitaires d'entrer par les frontières de l'Est. Ça bloque également le flux des transporteurs parce que nous avons des agences, des compagnies de transport qui étaient contractées pour amener ces différents humanitaires qui arrivaient par les aéroports de l'Est ici, mais qui ne savent pas le faire. Il faut toujours passer par Kinshasa. Ce moratoire-là doit également faire partie des révisitations afin de nous permettre toujours de continuer à jouir de cette capitale touristique de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Dans le nord du Mali, les armes ont encore parlé hier samedi. Les forces armées maliennes ont mené des opérations dans le nord-est, en partie sous contrôle de l'ex-rébellion. Au même moment, les ex-rebelles qui évoluent désormais au sein du cadre stratégique permanent CSP ont revu à la hausse le bilan d'une attaque qu'ils ont récemment revendiquée au centre du pays.
L'invité.
L'invité de ce journal est la responsable des relations extérieures du Haut Commissariat pour les réfugiés à Bounia. Aïdara Faouzia parle de la situation difficile des déplacés en Ituri avec l'aide humanitaire qui s'est fait rare. Ce sujet a été au centre des échanges entre les autorités politico-administratives de la province de l'Ituri et les responsables du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Aïdara Faouzia s'entretient à Bounia avec Sadiki Aboubakar.
Aïdara Faouzia, bonjour.
Bonjour.
Vous réunissez des autorités politico-administratives de la ville de Bounia et toute sa proximité. Pour quelle fin ?
Merci pour la question. Alors, ce jour, on organise un atelier de sensibilisation aux solutions durables en Ituri, en faveur des autorités, comme vous venez de le dire, politico-administratives. Et c'est important pour nous, parce que quand on parle de solutions durables, les premiers concernés par les solutions durables, ce sont les autorités, que nous, les agences des Nations Unies, ne faisons qu'accompagner. Et voilà.
Quand vous parlez de solutions durables, c'est en quelle matière ?
On parle en termes d'intégration locale, on parle de relocalisation ailleurs et on parle également de retour.
Des personnes déplacées ?
Des personnes déplacées.
Et parmi les solutions durables, vous parlez de l'intégration. Qu'est-ce qu'on peut entendre par intégration des personnes déplacées ?
On parle des personnes déplacées qui veulent vivre dans les milieux où elles sont déjà. Par exemple, si on parle de Bounia, vous avez ici autour de 6 sites de déplacés. Et les personnes qui ont opté pour l'intégration, c'est les personnes qui veulent être intégrées et à Bounia, sinon dans ces environs.
Et pour un déplacé ayant fait ses choix, qu'est-ce que vous allez lui accorder comme chance ?
Voilà, vous avez parlé de choix et je suis contente que vous ayez parlé de choix parce qu'il faut savoir que les solutions, c'est l'intégration ou le retour ou même la relocalisation, c'est volontaire. Et c'est suite à des enquêtes d'intention de retour que nous avons menées en juillet qu'on a eu ce pourcentage. Donc 83% des personnes veulent être intégrées localement, autour de 14% veulent être relocalisées ailleurs et 3% des personnes veulent retourner dans leur milieu d'origine, bien sûr si la sécurité
est rétablie.
Exactement. Donc en termes d'assistance ou d'accompagnement pour les personnes qui ont choisi une option ou l'autre, le HCR avec d'autres agences des Nations Unies, je vais les citer, donc la FAO, le PAM ou OIM, on a mis en place des mécanismes qui permettent justement de mettre tout un paquet d'assistance pour accompagner ces personnes, notamment en termes d'abri, avec latrine, un appui LTP, assistance monétaire pour des articles ménagers non essentiels, et le retour et le transport pour justement quitter le site de déplacement vers les zones d'intégration, retour, relocalisation par le HCR. La FAO mettra en avant des activités de distribution d'intrants pour les activités maraîchères. Le PAM mettra à contribution une distribution de cash pour un équivalent à un ratio, 3 mois de ration alimentaire, par exemple. Et OIM fera des enquêtes d'évaluation dans les sites justement des zones de retour pour permettre d'avoir toutes ces informations dans ces différentes zones de retour en termes d'infrastructures sociales de base, éducation, wash, etc., qui permettent justement aux personnes déplacées de décider. Comme on dit, une décision bien informée est toujours meilleure. Donc l'OIM mettra en place toutes ces activités pour permettre aux personnes de décider si elles veulent retourner dans les zones de retour, etc. Donc voilà quelques activités qui seront mises en œuvre. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces agences, il y a d'autres acteurs également qui interviennent déjà dans le cadre des solutions, bien avant même qu'on parle de ce projet. Donc maintenant, c'est de voir quelle est la synergie qui peut être créée en vue de travailler ensemble. Par exemple, il y a d'autres acteurs qui interviennent déjà en termes d'abri, aussi éducation, voilà, tout un paquet qui est déjà mis en place. C'est de voir comment est-ce qu'on peut créer, travailler ensemble justement pour accompagner ce projet de solution. Si on parle de solution durable, on ne quitte pas un site de déplacé pour aller dans un autre site de déplacé. C'est de vraiment être intégré comme localement dans la communauté, et c'est des personnes qui ont créé vraiment une résilience depuis qu'ils sont dans les sites de déplacés, certains depuis 5 ans. Donc c'est des personnes qui ont acquis des parcelles de terre. Aux dernières statistiques, nous sommes à 198 ménages qui ont acquis des parcelles de terre, donc par acte de vente. Et nous avons bien sûr d'autres actes de cession ou sinon des dons. Mais vraiment, la majorité, elles ont acquis elles-mêmes leur parcelle de terre. Et on voit là que c'est des personnes qui ont vraiment développé toute une résilience. Comme vous le savez, les agences des Nations Unies, le HCR, n'a pas de terre. Donc, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec tous ces acteurs étatiques et tous les acteurs engagés dans toutes les questions LTP, les divisions de l'habitat, l'urbanisme, etc., le cadastre, etc. C'est justement pour essayer de voir comment toutes ces questions peuvent être débattues.
Aïdara Faouzia, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invitée, la responsable des relations extérieures du Haut Commissariat pour les réfugiés à Bounia. Aïdara Faouzia s'entretenait à Bounia avec Sadiki Aboubakar. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pele Kipela Mondo et coordonné par Jacques-Yves Molima. À Lengoy, la mise en onde. À leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.